Il vient d'écrire un livre intitulé « Vito Rizzuto, la chute du dernier parrain ». Daniel Renaud, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous l'avez écrit en collaboration avec Laurie McDougall, qui a été un policier de la GRC pendant nombre d'années, qui a suivi Vito Rizzuto comme son ombre. Allons-y tout de suite avec la première question. Rizzuto, Vito Rizzuto, c'est un homme qui réussissait à résoudre les conflits.
Exactement.
C'était probablement sa plus grande force, hein, sa capacité de mettre autour de la table des intérêts divergents qui auraient pu même recourir à la violence pour résoudre le conflit, mais il réussissait à trouver une espèce de compromis qui faisait que et la mafia italienne et, par exemple, les groupes de motards criminalisés, les Hells, pour ne pas les nommer, trouvaient une espèce de terrain d'entente qui faisait que tout le monde était gagnant-gagnant.
Oui, exactement. C'était quelqu'un qui était ressembleur et ça explique pourquoi il portait ce titre de parrain de la mafia de Montréal. Un titre d'ailleurs qu'il n'a jamais admis.
Non.
Tout au long de sa carrière, même pas devant les autorités américaines. Par contre, en 2007, lorsqu'il a comparu devant les autorités américaines pour le triple meurtre de 1981, il a quand même admis qu'il faisait partie d'une organisation criminelle. Mais c'est ça, Vito Rizzuto, c'était un arbitre, c'était un rassembleur, c'était sa force. C'est la raison pour laquelle on s'ennuie encore de lui aujourd'hui dans les milieux criminels.
Dans les milieux criminels ou dans la mafia en particulier?
Je dirais dans les milieux criminels.
Ah oui?
Oui,
hein?
Parce que il s'arrangeait pour que tout... C'est lui, en fait, qui a commencé ça aussi, que tous les groupes criminels fonctionnent ensemble, ils travaillent ensemble, ils s'entraident. Pour lui, c'est important aussi que tous les groupes criminels y trouvent leur compte et aient aussi leur part du gâteau.
Donc, ça n'a pas dû passer comme une lettre à la poste, ça, auprès de la vieille establishment de la mafia italienne qui contrôlait à partir de l'après-guerre, hein, qui contrôlait l'essentiel du...
Oui, depuis les années 50. Oui, ça, c'est une bonne question, Bernard, parce que j'avais entendu... Déjà, les policiers m'avaient dit dans le passé qu'au sein de la mafia italienne, c'est pas tout le monde qui partageait cette vision-là de Vito Rizzuto. Par contre, est-ce que Vito Rizzuto avait le choix?
C'est ça.
Parce que, il l'explique dans le premier chapitre, au moment où il est à son paroxysme, à fin des années 90, début des années 2000, il y a aussi un autre groupe criminel qui prend de l'ampleur, et ce sont les Hells Angels.
Voilà.
Et à un moment donné, Vito Rizzuto est obligé de s'asseoir avec eux pour négocier le prix de la cocaïne et tout ça, et même pour faire des concessions sur certains territoires.
Ça, c'est fascinant, ce bout-là, là, où ils se partagent le territoire de l'île de Montréal.
Oui.
Hein, les Hells prennent une bonne partie de l'île, mais la mafia se garde une partie d'Hansic, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies.
Oui, vous avez bien lu le livre, Montréal-Nord, ce secteur-là.
Voilà,
le secteur
voilà.
Où c'est encore un peu chaud. Là. De temps en temps, Rivière-des-Prairies, ça a brassé dernièrement, ces dernières années, mais là, c'est un peu plus tranquille. Mais il y a quand même aussi la mafia italienne qui est présente aussi dans le secteur La Salle, la Chine et tout ça. Mais Vito Rizzuto a dû faire des concessions. Pourquoi? Parce que, disent des policiers, peut-être qu'il savait que s'il y avait eu un conflit avec les Hells Angels, c'est peut-être pas la mafia italienne qui s'en serait tirée avec la victoire. Sauf que il est arrêté le 20 janvier 2004 et c'est à partir de ce moment-là, après l'arrestation de Vito Rizzuto, et ça, c'en est une autre preuve, que c'est là que les guerres intestines au sein de la mafia commencent. Et jusqu'à... tellement que lorsqu'il revient en 2012-2013, il est obligé de venger la mort de son père, de son fils, mais aussi de rétablir sa position à la tête de la mafia montréalaise.
Il va réussir.
Oui, il réussit, mais c'est éphémère parce qu'il décède de façon naturelle en décembre 2013.
Je dois vous dire, quand je lis ce livre-là, c'est hallucinant le nombre d'associés, de conseillers, d'amis qui vont mourir par mort violente. Et lui finit sa vie par une mort naturelle. Puis je peux pas faire autrement, Daniel Renaud, que de me dire, est-ce que c'est de la chance qu'il soit mort de mort naturelle? Ou est-ce que c'est pas la preuve, une autre preuve qu'il était particulièrement futé puis particulièrement rusé? Parce que c'est...
Je pense que c'est les deux, Bernard, parce que il y a certains moments où ça a vraiment chauffé pour Vito Rizzuto.
Est-ce qu'il y a eu des attentats contre sa vie directement?
À ma connaissance, non. Je peux me tromper. À ma connaissance, dans tout ce que j'ai pu entendre ou lire ces dernières années, je ne crois pas. Est-ce que les policiers l'ont déjà avisé que sa vie était en danger?
Ça se peut, ça.
C'est possible. Mais quand il revient au Canada en octobre 2012, les policiers lui disent, c'est écrit dans le livre, c'est pour ça qu'il va à Toronto. C'est les policiers de la GRC qui lui recommandent d'aller à Toronto. Un, pour éviter le cirque médiatique, mais aussi avec la tension encore qui règne. Et lui-même dit, lorsque je reviendrai au Québec aussi, pendant une certaine période de temps, je me tiendrai loin. Effectivement, pendant à peu près un mois, il est à l'extérieur de Montréal, dans un chalet, et il attend que les pièces retombent en place. Et il ne se promène pas nécessairement toujours tout seul. Il est accompagné de gardes du corps, mais plus ça va, plus les gens se rallient à lui. Ce qu'il fait lorsqu'il revient, c'est qu'il va rencontrer des gens pour savoir, bon, t'es-tu avec moi ou t'es contre moi? Et les gens se rallient à lui, il est de plus en plus fort, et il redevient
pareil. Il se rallie à lui, pourquoi? Parce que c'est dans leur intérêt? Parce qu'ils voient...
Oui, c'est dans leur intérêt.
Ce que l'absence a provoqué comme dégâts, puis ils se disent, dans le fond, faut revenir à une situation de calme ou à tout le moins de stabilité. Et parce que c'est bon pour la business?
C'est une question de respect envers Vito Rizzuto, le respect de gens du milieu criminel aussi. Puis c'est une question, je pense, que les gens voyaient aussi que c'est lui qui allait redevenir le plus fort.
Mais comment tu peux? Il a fait combien d'années de prison?
Il a été arrêté en 2004, il est sorti en 2012. Mais quand même, il reste durant deux ans ou presque là, ici au Québec, là, parce qu'il est d'abord envoyé à la prison de Rivière-des-Prairies, ensuite au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, puis encore tiré certaines ficelles. Par la suite, en 2006, si je me souviens bien, il est envoyé à New York. Il reste environ un an à New York, il n'est pas très loin du Québec encore. Mais en 2007, il est envoyé à Florence, au Colorado. C'est à l'autre bout du continent, ou presque. Et là, c'est vraiment plus difficile de gérer les affaires. Et à partir de 2007, là, 2008, là, c'est là que les ennemis du clan des Rizzuto fomentent, commencent à fomenter un putsch pour éventuellement les renverser. Ce qu'ils ne réussiront jamais.
Voilà, mais ils vont venir proches.
Oui, hein, c'est écrit. Les policiers disent que si... Parce que, vous savez, la théorie de la police, c'est qu'à partir de 2009-2010, il y a une alliance de chefs de clan opposés aux Rizzuto qui s'est formée pour les renverser. Entre autres, il y a Rénal Desjardins et il y a Salvatore Montagna, un homme né à Montréal, mais qui arrivait de New York, un mafiosi new-yorkais. Tout ce beau monde-là fonctionne ensemble, mais à un moment donné, il y a une dispute entre les deux. Les policiers disent que s'il n'y avait jamais eu de dispute entre les deux, ça serait eux aujourd'hui
qui dirigeraient la mafia. Et Rizzuto n'aurait pas pu reprendre le leadership.
Exact.
Redevenir le chef.
C'est ça.
Redevenir le parrain.
Oui, redevenir le parrain. Puis là, actuellement, on a une mafia à Montréal dans laquelle il n'y a pas vraiment de parrain. Pour le moment, la structure n'est plus pyramidale. Il n'y a plus de chef en haut avec des capitaines un peu plus bas et tout ça. C'est vraiment linéaire. C'est quelques chefs de clan principaux de la mafia qui sont tous sur la même ligne avec un patron pour chacune, des espèces de gérants. Et tout ce monde-là, quand même, fonctionne ensemble, font des affaires ensemble. Pour le moment, il n'y a pas de chef.
Oui, mais ça, c'est pas nécessairement des conditions de stabilité pour le long terme.
Non, mais c'est calme, Bernard, quand même. C'est calme. Probablement qu'il y a une influence d'individus importants, des Hells Angels, là, qui. Parce que c'est fascinant, juste à lire des documents judiciaires, comment tous ces gens-là fonctionnent ensemble. À la même table, lors d'une rencontre, on va voir un membre des Hells Angels avec deux individus liés à la mafia italienne, un membre des gangs de rue, deux gars du gang de l'Ouest. C'est devenu, le crime organisé à Montréal, une mosaïque là, de différents groupes au sein desquels il y a des individus de différentes allégeances au sein d'un même groupe.
Et il y a comme une espèce d'équilibre précaire qui s'est installé.
Pour le moment, mais j'ai l'impression, comme plusieurs policiers, que c'est un peu le calme avant la tempête.
J'allais dire, à un moment donné, il y en a un qui va vouloir prendre le contrôle.
Oui, oui, exact. C'est ce que je pense.
Est-ce que, je vous pose la question, peut-être que je l'ai manqué, mais est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des contacts directs entre Vito Rizzuto et Mom Boucher? C'était deux chefs. Ils ont, à un moment donné, été chefs en même temps, là?
C'est sûr qu'il y a déjà eu des contacts directs. Ça, c'est certain.
Je serais curieux de savoir ce que Rizzuto pensait de Boucher et ce que Boucher pensait de Rizzuto. Parce que c'est comme les deux hommes forts du crime organisé à ce moment-là à Montréal.
Oui. Maurice Boucher, fin des années 90, jusqu'à ce qu'il soit arrêté et envoyé au pénitencier là, pour peut-être le reste de ses jours. C'est certain que ces gens-là se sont déjà parlé. Mais c'est une bonne question que vous me posez.
Ça serait intéressant de le savoir.
Ça serait intéressant de
le
savoir.
Ça pourrait peut-être être un prochain tome. Ce qui est bien intéressant dans votre livre aussi, Daniel Renaud, c'est quand les policiers vont rencontrer Rizzuto.
Oui. Au pénitencier?
À un moment donné, il y a un policier qui est menacé, qui fait l'objet de menaces.
Oui.
Puis il décide d'aller rencontrer Rizzuto pour, dans le fond, y dire...
passer un message.
Oui.
C'est un policier qui reçoit une couronne de fleurs mortuaires à la maison. Et il y a deux policiers de la division du crime organisé du SPVM qui vont rencontrer Vito Rizzuto dans les locaux de l'ancien criminaliste Loris Cavalière.
Qui était son avocat.
Oui, et qui passe un message. Mais lui, il dit, c'est toujours Vito-ci, Vito par là, Vito par-ci, tout ça, on m'en donne beaucoup, j'ai le dollar. Ça a toujours été son discours tout au long de sa carrière.
Ouais.
Mais ça, c'est des bouts intéressants. Mais c'est intéressant aussi, Bernard, quand... lorsqu'il est à Florence, les policiers, d'abord du SPVM et ceux de la GRC, vont le rencontrer à quatre reprises parce qu'il y a une évolution dans le personnage. C'est que la première fois, les policiers du SPVM vont le voir en 2010, après le meurtre de son fils et de deux autres de ses proches. Et Vito Rizzuto, c'est pas du tout d'où viennent les attaques. Il pense que c'est peut-être New York, il croit pas l'Ontario, mais il questionne les policiers. Il essaie de soutirer aussi des informations. La deuxième fois, c'est après le meurtre de son père, Nicolo. Et là, Vito Rizzuto est complètement abattu. Il est dépassé par les événements.
Il était abattu dans sa cuisine par un tireur d'élite, par quelqu'un de l'extérieur.
Par un bon tireur.
Ouais,
je
ne
sais pas si
c'est
un tireur d'élite, mais par un bon tireur. Et puis, Vito Rizzuto est complètement démuni, selon les policiers qu'il rencontre. Il a perdu de sa superbe. Sauf qu'un peu plus tard, en 2011-2012, lorsque les policiers de la GRC vont le voir, là, à un moment donné, il sait qui a tué son fils. Il dit, je sais c'est qui, c'est le noir. Puis ça, je vais...
C'est
du Carme Joseph, tout ça. Et il commence à en savoir un petit peu plus, tout ça. Et juste avant sa libération, lorsque les policiers vont le voir, il ne leur pose plus aucune question. Il sait ce qui se passe. Il sait qu'il est sur le point de sortir du pénitencier. Et lorsque les policiers quittent, il dit c'est certain qu'il va se venger. Mais la vengeance est déjà commencée parce qu'en 2012, avant même que Vito Rizzuto sorte de la prison américaine, il y a déjà des gens qui ont commencé à tomber. Les Rizzuto sont en train de reprendre le pouvoir. Mais il y a toutes sortes d'anecdotes aussi. C'est fascinant, le chapitre, lorsque la GRC place à côté de lui, en première classe, sur un avion à destination de la Colombie-Britannique.
Cette magnifique policière.
Une agent double qui se fait passer pour...
une vendeuse de cosmétiques.
Une représentante de crème.
Ils sont allés
acheter dans une pharmacie, ont acheté une valise pour faire croire qu'elle était une représentante, tout ça. Et il se confie beaucoup à elle. Il lui dit beaucoup de choses.
Oui. Il dit même, la GRC va te rencontrer quand tu vas sortir de l'avion. Ils vont te dire que c'est moi le chef de la mafia. Et là, il va faire semblant de ne pas le savoir. Puis là, il demande un journal. Regarde, je vais te montrer ma face.
Exact, c'est ça. Puis c'est un article, semble-t-il. J'ai essayé de le retrouver, mais on le compare à John Gotti. J'ai eu tellement de plaisir, Bernard, à écrire ce livre-là. Là, puis je l'écris d'ailleurs souvent dans les livres que j'ai écrits. J'espère que je vais réussir à transmettre ça au lecteur. Puis c'est vrai que c'est Vito Rizzuto comme on ne l'a jamais vu.
Oui.
Parce qu'on l'entend parler, on le voit vivre un peu avec sa famille, avec ses proches. Mais il y a le passage aussi à Cuba aussi où c'est fascinant. Lorsque le conjoint de sa fille, Libertina Rizzuto, s'est fait de nouveaux amis là-bas, des plaisanciers québécois, des célibataires, tout ça, qui en réalité ne sont pas vraiment des plaisanciers. Ce sont des agents doubles de la GRC. Et c'est là qu'apparaît Michel Courtemanche, aussi l'humoriste, mais qui n'a pas vraiment joué de rôle là-dedans. Mais j'explique là, tout ce qui s'est passé à ce moment-là.
Non, c'est très intéressant. Vito Rizzuto, donc, la chute du dernier parrain, pour le moment en tout cas.
Il y a tout l'aspect aussi, Bernard, puis je ne veux pas prendre trop de temps, mais tout l'aspect commission Charbonneau aussi.
Bien sûr. Oui, puis tu fais un petit détour à un moment donné par M. Gagliano. C'est très intéressant. Donc, Daniel Renaud, en collaboration avec Laurie McDougall, donc ce livre-là, merci de ta visite.
Mais merci, ça me fait plaisir.
Dans un instant, c'est Loïc qui s'en vient avec l'actualité internationale.